Yves Rougez, les amis du parc. Première question sur le bouquetin. Est-ce que vous avez prévu l'utilisation de drones pour mieux observer les comportements et la biologie du bouquetin? Parce que c'est très difficile de les voir, même si on les a localisés avec le collier. Deuxième question botanique. En Espagne, ils ont pillé la ressource au niveau de la gentiane. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements concernant l'exploitation par les cueilleurs sauvages, que je qualifie?
Donc en fait, ça va être deux questions, deux réponses. Yannick Barascud pour commencer sur le volet bouquetin, et après Gérard, j'imagine que tu prendras le relais sur le volet gentiane.
Dans le choix des sites de lâcher, vous savez, ça a été un long travail avec des études de potentialité pour choisir le site d'implantation de nos animaux. Figurait notamment l'absence de vol au-dessus du cirque, enfin du lieu de lâcher, parce que ce sont des animaux qui ont une peur farouche de tout ce qui leur passe au-dessus, leur rappelant leurs jeunes années et les aigles notamment qui les poursuivaient. Donc le suivi par drone peut être utilisé pour certaines espèces, vraisemblablement. Ça ne sera effectivement pas le cas pour le bouquetin qui va fuir les populations s'éclater et voire prendre des risques, l'animal étant enroché facilement.
Par rapport à la question, effectivement, c'est une grande question concernant la possibilité de recueillir des données le plus précises possible sur des animaux qui sont difficilement observables. Et je tenais à signaler, pour l'anecdote, hein, par rapport à ça, qu'il existe des dispositifs qui sont en cours d'essai. Il s'agit de caméras, de petites caméras. En fait, c'est des GoPro, hein, dispositifs de GoPro que l'on peut placer sur un collier et faire porter ça par un animal. Il y a une tentative de fait sur une ours en Slovénie qui a porté donc sa petite caméra sur le collier pendant un mois. Et on a dépouillé un petit peu les données. On essaie de faire ça sur le chevreuil. Et l'intérêt, bon, évidemment, c'est équiper des animaux à outrance. Hein. On peut tout à fait être critique par rapport à ça. Mais la quantité d'informations qui est apportée par ces dispositifs est vraiment impressionnante. Le seul problème qui se pose, c'est l'autonomie des dispositifs, puisqu'évidemment, c'est une information vidéo, la batterie est très sollicitée, et en général, c'est des durées de quelques semaines. Or là, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer des données concernant tout le cycle annuel, et de pouvoir obtenir ces informations. Mais c'est vraiment très intéressant dans la mesure où on sait exactement ce que fait l'animal, on sait ce qu'il mange, on sait dans quel endroit il se trouve et avec qui il se trouve. Ce que ne peuvent pas donner les coordonnées GPS, à moins d'avoir des capteurs de proximité et d'avoir des animaux qui sont équipés simultanément.
Gérard Largier pour la seconde question.
Oui, donc effectivement, il y a un gros problème sur la gentiane en Catalogne espagnole, hein, où il y a effectivement eu beaucoup de récoltes. Et à l'heure actuelle, c'est très réglementé la cueillette de la gentiane en Catalogne. Et d'où le problème pour les Pyrénées françaises, en fait. C'est qu'on voit depuis quelques années arriver des entreprises catalanes sud qui viennent cueillir en France. Et dans des conditions qui sont réellement problématiques. D'abord parce qu'il y en a qui ont pu cueillir sans aucune autorisation. Ensuite, c'est des cueillettes qui peuvent être faites sans ménager la ressource. Et puis également, alors, il y a le problème des conditions sociales des personnes qui cueillent. Également. Et puis, il y a la question de l'achat au propriétaire, hein, qui ne se fait pas forcément à des prix justes. Hein, et donc, ce n'est pas une bonne valorisation de la ressource. Donc ça, c'est vraiment un problème et c'est ce qu'on veut éviter pour les Pyrénées françaises. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ces questions-là. Quand on a commencé à s'intéresser aux questions de cueillette, parmi les choses qu'on nous a dit au début, mais pourquoi vous intéressez à ça dans la région Midi-Pyrénées, ce n'est pas un enjeu, la cueillette. En réalité, si, c'est un enjeu, et justement, on ne s'en rend pas bien compte parce que c'est un métier qui est très peu connu, ce sont des pratiques qui sont très peu connues. Voilà, donc il faut accompagner cette démarche-là pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans la situation de l'Espagne, en fait. Alors ça veut dire, bon, il ne s'agit pas spécialement d'interdire, par contre, il faut voir dans quelles conditions on récolte. Alors il y a un certain nombre de communes de Haute-Ariège qui sont réglementées à l'heure actuelle au niveau de la cueillette par arrêté préfectoral, puisqu'il y a un dispositif en France qui permet de réglementer les cueillettes. Bon, cet arrêté pose un certain nombre de problèmes, notamment de la période d'autorisation qui n'est pas forcément la plus adaptée et qui peut générer des cueillettes sauvages parce que la cueillette est réservée à l'automne. Et ensuite, bon, une réglementation, il faut pouvoir la suivre pour qu'elle soit efficace. Et puis, il ne suffit pas de réglementer, il faut vraiment avoir un regard sur la gestion de la ressource. Hein, parce que faut s'assurer que des parcelles sur lesquelles on a accueilli, on ne va pas repasser d'ici 15 à 20 ans. Or, s'il n'y a pas une gestion organisée, s'il n'y a pas un suivi de tout ça qui est fait, ça ne sert à rien, en fait. Donc voilà, donc y a beaucoup de choses à faire pour traiter cette question.
Merci. Une autre question en haut, il va falloir remonter. Désolé, Rémi.
Bonjour, Florent Rivère, Parc Exploria au Mas d'Asile. Ma question concernait le bouquetin mâle M79, c'est ça, qui a disparu des écrans radar. C'était un bout de l'information que j'ai cru entendre. Et du coup, il n'avait pas de collier ?
Le collier a fini d'émettre le 22 décembre. Après, les Catalans avec qui on travaille, qui font aussi du suivi, ont réussi à le localiser par le signal VHF, donc le signal radio qu'émettent les colliers. Donc il était vivant durant une partie de l'hiver, et après au printemps, on a pu le retrouver dans le lac là-haut. Et l'autopsie, la conservation du corps dans le lac, enfin sous la neige dans un premier temps, a permis de faire une autopsie, et ce serait dû à une chute. Voilà.
Alors, je rebondis, ça me permet aussi de répondre pour partie à la question qu'avait posée Yves Rougès. Si vous voulez voir des bouquetins de près, il y a une solution qui est toute simple, c'est d'aller voir l'exposition au château de Seix, parce qu'il se trouve que c'est la vie, hein, on a perdu des bouquetins, donc on en a perdu une, hein, je pense que vous le savez, puisque la presse s'en est fait l'écho de manière assez abondante, donc un soir de lâcher l'année dernière, et puis donc on en a perdu également donc en période hivernale, et donc actuellement il y a deux animaux qui ont été naturalisés, qui sont présentés, qu'on peut voir sans toucher, s'il vous plaît, à l'exposition que nous avons réalisée avec la communauté de communes du canton d'Oust et qui est visible au château de Seix pendant la période de vacances.
Oui, Christiane de Meurice. Je voudrais savoir quelle est la politique qui est menée par rapport à des bêtes d'élevage qui sont redevenues sauvages. Bon, il y a eu l'exemple des vaches folles de Sesco. Bon, là, c'était des gros animaux. Mais j'ai entendu parler de chèvres qui étaient dans le massif de Tarascon et qui étaient en parfait état et qu'on a eu de cesse que de les éliminer.
Alors, moi, je peux vous répondre à mon niveau avec les éléments d'information que j'ai, sachant que le parc naturel régional n'est pas directement impliqué dans cette affaire. Pour ce qui est des chèvres de Tarascon, hein, si je comprends bien, vous faites référence aux chèvres dont je parlais tout à l'heure, hein, les chèvres qui sont sur le Soudour. Donc je parlais de Bédéiac, mais elles sont aussi sur le côté Surbas. Donc aujourd'hui, ces chèvres, ils sont toujours. Elles sont localisées sur le site. On peut les voir assez régulièrement. Il y a eu des velléités d'élimination, bon, mais qui n'ont pas été menées jusqu'au bout. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a, je sais pas, 25, 30 chèvres. Voilà, il n'y a pas de suivi spécifique qui est fait. Les chasseurs du coin, je pense, seraient certainement en mesure de dire quel est le nombre précis d'animaux qui y sont. Mais elles y sont et elles y restent. Oui, c'est Bernard Defoe le précise, effectivement. C'est la population locale qui a souhaité maintenir la présence de ces chèvres, voilà, et qui a donc souhaité et a demandé aux autorités de ne pas les éliminer.
Oui, Benoît Sofanor de Sorat. Donc c'est toujours sur les bouquetins, je trouve que c'est un programme assez enthousiasmant. Je voulais savoir au niveau génétique, là, si les marqueurs microsatellites, ils étaient déjà disponibles quand vous avez capturé les individus en Espagne, ou est-ce que ça s'est fait sur d'autres critères? En parlant de nouvelles introductions éventuelles sur d'autres populations, est-ce que vous parlez de populations de la même sous-espèce ou vous voulez faire un mélange de sous-espèces pour créer un nouveau bouquetin des Pyrénées, puisque du bouquetin des Pyrénées, il n'y en a plus, je crois.
Pour répondre à la première question, non, malheureusement, on n'avait pas pu avoir les données microsatellites au moment du choix des individus. Les individus ont été choisis, je pense, complètement au hasard. On les a génotypés après. Voilà, c'est la condition de capture qui ont fait la sélection. Donc ensuite, on les a génotypés. On a collaboré avec des Suisses, hein, qui nous ont fourni leur protocole pour qu'on se mette d'accord pour avoir le même protocole pour pouvoir faire des comparaisons avec les différentes populations. Donc, les marqueurs, enfin, le protocole a été disponible, les marqueurs, le génotypage n'était pas disponible au moment du choix des individus. Ensuite, pour votre deuxième question, c'est une question épineuse, cette question de voilà, le nombre de populations sources pour les introductions, parce qu'on sait que finalement, plus que le nombre d'individus qui est utilisé pour la restauration de la population, la diversité de sources est importante. Mais après, il ne faut pas non plus mettre en stand des populations qui ont divergé il y a plus de 1000 ans, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle, alors je ne sais pas exactement la traduction en français, de la outbreeding depression, ça veut dire que c'est des populations qui sont très différentes et dont les descendants vont finalement être mal adaptés. Donc il faut éviter d'amener, mais par contre, introduire des populations qui ont divergé récemment, et au contraire, ça va augmenter la taille efficace, la diversité génétique, donc c'est quelque chose qui peut être pas mal. Après, les différentes sous-espèces dont vous parlez, on ne sait pas vraiment si ces sous-espèces ont un sens ou pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait vérifier en termes de distance génétique, de différenciation génétique, si elles sont très différentes ou pas. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, pourquoi pas mettre des individus de populations différentes. Si les autres conditions sanitaires et autres sont OK, ça pourrait être intéressant et ça amènerait beaucoup plus de diversité génétique et ça augmenterait considérablement la diversité, la taille efficace. Si par contre, elles sont très différenciées parce que leur divergence est très ancienne, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un continuum quand même du fait qu'il y a une expansion récente du bouquetin dans les différentes sous-espèces. Il y a probablement des échanges maintenant entre ces deux différentes sous-espèces. Donc ça serait intéressant de regarder ça pour les futurs plans de gestion.
Oui, alors je reviens sur la question du croisement bouquetin des Pyrénées et bouquetin des Alpes. Donc ça n'est pas ni prévu ni souhaitable. Et de toute façon, si on le souhaitait, on ne le pourrait pas, puisque c'est interdit. Alors, entre les différentes sous-espèces, effectivement, c'est une affaire un peu plus compliquée. On trouve les différentes sous-espèces en Espagne. Et en Espagne, il y a du bouquetin quasiment partout, sauf dans les Pyrénées, en fait. Et donc, avec une expansion des populations qui est très importante. Pour en revenir donc, à la zone de capture de nos bouquetins à nous, donc c'est Sierra de Guadarrama. Donc, c'est une zone qui a été choisie donc, en fonction de plusieurs facteurs. C'est une zone où a priori la diversité génétique des populations est l'une des plus fortes des différentes populations de bouquetin espagnol, et c'est également l'une des zones, si ce n'est la zone, dans laquelle la qualité sanitaire des bouquetins est la plus importante. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ces problématiques-là.
Bonsoir, je suis Moussé Mombolou-Carla-Louise, étudiante gabonaise en stage à l'INRA. Donc, je voudrais savoir déjà pourquoi seulement 40 individus ont été introduits déjà ici, en ce qui concerne les bouquetins. Pourquoi le nombre 40, en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre la densité de la population et la superficie même de l'air dans laquelle donc cette population-là est introduite? Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport pour la répartition de ces individus-là et une meilleure viabilité de la population? Donc ça, c'est pour ce qui est ma première question. J'ai une autre question, surtout en ce qui concerne les interactions avec les autres animaux, même dans le parc. Est-ce que vous avez une idée des interactions? Et j'ai une troisième question, quel est le rôle écologique du bouquetin?
Je vais tâcher de répondre aux deux premières. La troisième, je vais donner la main aux spécialistes, d'accord? Alors sur le nombre, donc aujourd'hui ont été réintroduits dans le parc, je parle des Pyrénées ariégeoises, le parc national, c'est à peu près la même chose. Donc en 2014-2015, il y a eu 5 lâchers, que je dis pas de bêtises, c'est ça, 5 lâchers successifs, et donc aujourd'hui on est à peu près une cinquantaine d'animaux présents. Voilà. Donc pourquoi ce nombre-là? Tout simplement parce que c'est du boulot, il faut les capturer, il faut les amener, il faut les lâcher, il faut les suivre. Mais au-delà de ça, en fait, nous appliquons un programme qui a été établi en lien avec les scientifiques à différents niveaux et qui a été validé à l'échelle nationale par le Conseil national de protection de la nature. Donc c'est un protocole scientifique qui a été établi avec les scientifiques qui est censé garantir au fur et à mesure la pérennité d'une population à la fois dans le parc des Pyrénées ariégeoises, également dans le parc national des Pyrénées, et à terme, une interconnexion entre ces différentes populations-là. Voilà. Donc il est apparu que dans cet objectif-là, en année 1 et en année 2, donc 2014 et 2015, le quota de 20 animaux était satisfaisant. Voilà. Nous avons eu la possibilité, grâce à des financements complémentaires de l'État, d'augmenter le nombre d'animaux lâchés, ce qui fait que nous en sommes aujourd'hui à une cinquantaine. Après, par rapport à votre seconde question, sur l'interrelation entre la présence de ces animaux et le reste de la faune, donc en fait, il y a deux focales. Il y a la question de la faune domestique et la question de la faune sauvage. L'enjeu de la faune domestique, c'est un enjeu clé. Il était hors de question que le bouquetin vienne perturber d'une manière ou d'une autre les activités pastorales. Le lieu qui a été choisi était un lieu qui a une activité pastorale relativement modérée par rapport à d'autres sites sur le parc. Il y a une activité pastorale, mais avec des charges un peu moins importantes. Donc des perspectives en fait de difficultés qui étaient a priori moindres que sur d'autres sites. Ensuite, ce que nous avons regardé, c'est la problématique sanitaire. J'en ai abondamment parlé. Donc, nous avons fait en sorte que les animaux réintroduits ne soient pas porteurs de maladies ou de parasites susceptibles de venir sur les animaux domestiques, que ce soit les brebis ou les vaches, par exemple. L'autre aspect important, c'est celui de la concurrence alimentaire. Donc, d'éviter ces phénomènes de concurrence alimentaire. Ce qu'on savait, c'était que le bouquetin, dans son contexte, espagnol cohabitait bien avec les troupeaux, que ce soit de vaches ou de brebis lorsqu'il y en avait. Ce qu'on savait, c'est que le bouquetin se cantonnait plutôt à un certain nombre de zones d'altitude et de zones rocheuses. Et l'expérience que nous avons aujourd'hui chez nous, là, depuis un an et demi que nous avons les bouquetins, et puis les données qui ont été montrées, de mon point de vue, confirme ce phénomène-là. En fait, les bouquetins se trouvent dans des zones qui se trouvent cantonnés ou en tout cas se déplacent dans des zones qui sont des zones dans lesquelles on n'a pas les troupeaux, on n'est pas dans les estives à vaches et ils sont peu en relation avec les brebis dans les zones à brebis. Donc sur le phénomène de la concurrence alimentaire, il n'y a pas de problème. Sur la relation entre le bouquetin et les autres animaux sauvages, il n'y a pas d'incompatibilité. On vous connaît en Espagne des zones où, avec des mix entre bouquetins et autres ongulés, quels qu'ils soient, et ça ne pose pas de problème particulier. Sur le reste de la question, si vous souhaitez amener des développements.
En d'autres termes, à quoi ça sert un bouquetin, hein? C'est comme ça qu'on peut transformer la question. En fait, on a des exemples dans les Alpes, où on a pu suivre la réintroduction de certaines espèces, et notamment, pour ne citer que les ongulés de montagne, le mouflon, le chamois dans les Alpes, et le bouquetin. Et on s'est aperçu, mais ça les chasseurs et les naturalistes passionnés par ces animaux le savent parfaitement, ce sont des animaux qui n'ont pas du tout le même comportement, et également, à travers la sélection, en fait, ils ont des aptitudes qui sont différentes. On suppose que les rupicaprinés, les chamois et les isards, donc, ont été, pour évoquer la sélection, ont été sélectionnés sur la capacité à courir pour échapper aux prédateurs. Et les bouquetins, qui ont une morphologie qui est beaucoup plus lourde, donc ne sont pas de bons coureurs, en fait, ils ont été sélectionnés sur leur capacité à utiliser la verticalité, c'est-à-dire à utiliser le milieu rocheux. Et en Sibérie, mais maintenant en France c'est aussi le cas, on peut observer des tentatives de prédation peut-être de loups sur des bouquetins, mais on sait de longue date en Sibérie que où les loups et les bouquetins, les grands prédateurs sont confrontés aux ongulés, eh bien les bouquetins ont la capacité d'échapper aux prédateurs simplement en s'enrochant, en se plaçant sur une falaise rocheuse. Or, lorsque le bouquetin a disparu des Pyrénées, on peut, pour en revenir à votre question, considérer que ces falaises rocheuses qui peuvent représenter un milieu de sauvegarde de l'espèce, mais également un milieu alimentaire, puisque la chose qui a le plus étonné le principal acteur de cette réintroduction des Pyrénées, Jean-Paul Cramp, en termes historiques, il a été sidéré de la capacité de ces bouquetins à rester en altitude, malgré la neige, malgré le vent, malgré les mauvaises conditions, et ils sont parvenus à se nourrir en consommant des lichens, et ils sont restés en permanence à l'altitude. Donc, en fait, ce qui confirme bien le fait que ce sont des animaux qui sont probablement capables d'utiliser des milieux que les autres ongulés de montagne ne sont pas capables d'utiliser. Donc, en fait, une sorte de répartition, de valorisation des différents espaces que l'on trouve en montagne, y compris au travers des bouquetins. Et puis, sous forme d'une boutade, ils peuvent servir également à alimenter des gypaètes et des vautours fauves et autres prédateurs, renards et autres animaux qui ne serait-ce qu'une carcasse avec tous les insectes coprophages et autres les crottes pour les coprophages et puis autres décomposeurs.
En disant qu'on parlait tout à l'heure de biodiversité, restaurer des populations de bouquetins qui étaient historiquement dans les Pyrénées, c'est aussi amener un herbivore dans des habitats où historiquement il y avait des herbivores et qui a disparu. Et donc probablement, il y avait un écosystème qui était présent et ils avaient un rôle. Ils se nourrissaient des plantes qui étaient présentes, ils participaient à la dissémination des graines, ils permettaient aussi l'ouverture de l'habitat et peut-être que finalement, le bouquetin est important pour favoriser l'écosystème et favoriser la biodiversité dans cet habitat. Donc je pense que historiquement, c'est intéressant de ramener une bête qui était là il y a plusieurs décennies, quoi.
Oui, c'est à Magnard, j'habite Soulan, et je voudrais savoir dans quelle mesure les chèvres peuvent être laissées en liberté, compte tenu des dégâts qu'elles peuvent provoquer sur les arbres. D'ailleurs, il y a une loi de Napoléon qui dit que parmi les animaux domestiques, seuls les chèvres ne peuvent pas être laissés en liberté. Alors, je voulais savoir un peu s'il y a des dégâts qui sont vraiment... Enfin, moi, j'en ai été témoin quand même. Hein.
Oui, ben en fait, normalement, il ne devrait pas être en liberté. Après, on a plusieurs cas de figure. Le plus souvent, hein, ce sont les chèvres qu'on trouve dans la montagne. On a parlé de deux exemples tout à l'heure, hein, vous en rapportez un troisième. Le plus souvent, ce sont des chèvres qui se sont échappées, voilà, et qui se retrouvent en liberté, plus ou moins tolérées, plus ou moins acceptées, plus ou moins faciles à retrouver et à éliminer. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on trouve assez classiquement. C'est vrai dans l'Ariège comme dans d'autres massifs français.